entière. C'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 10 octobre 2025. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, qualifie de violation directe du droit à la négociation collective des employés l'annonce de la fermeture de la succursale de Renaud-Bray située aux Galeries de la Capitale. Cette annonce survient alors qu'un conflit de travail perdure depuis 10 mois chez Renaud-Bray. Depuis le début de cette négociation, poursuit Caroline Senneville, l'entreprise a bafoué plusieurs règles prévues au Code du travail, que ce soit en négociant de mauvaise foi, en entravant les activités du syndicat ou encore en embauchant des briseurs de grève, des violations reconnues par les tribunaux. De son côté, le président de la Fédération du commerce de la CSN, Serge Monette, assure que tous les moyens seront pris afin de faire respecter les droits des travailleuses et des travailleurs de Renaud-Bray. Le bureau du président d'élection de la Ville de Québec informe la population qu'avec la grève à Poste Canada, la distribution des avis d'inscription sur la liste électorale et des cartes de rappel du vote est effectuée par un fournisseur privé. L'opération a commencé le 7 octobre et se poursuivra sur une période d'environ 2 semaines. Par ailleurs, pour tenir compte des délais engendrés par cette situation exceptionnelle, la période de révision électorale a été prolongée de 2 jours. Les commissions de révision se tiendront donc du 15 au 18 octobre, ainsi que les 20 et 21 octobre. À l'approche des élections municipales, l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec souhaite rappeler l'importance cruciale des haltes-garderies communautaires dans le paysage des services aux familles. L'association invite l'ensemble des candidates et candidats aux élections municipales à reconnaître les haltes-garderies communautaires comme des partenaires essentiels de leur politique familiale municipale. Présentes dans 272 milieux à travers toutes les régions du Québec, les haltes-garderies communautaires accueillent annuellement près de 25 000 enfants, répondant ainsi à des besoins de garde flexibles, accessibles et de proximité. Et dès aujourd'hui, le cœur du Vieux-Québec s'anime avec la 2e édition de Réverbère, le grand rendez-vous des arts de la rue à Québec. Pendant 3 jours, plus de 170 prestations gratuites transformeront les rues, places publiques et parcs du quartier historique en une immense scène à ciel ouvert. L'événement se tient principalement sur 8 sites, de la place Diauville au parc Montmorency, en passant par le secteur de l'Hôtel de Ville. Chaque site propose des ambiances et des expériences artistiques uniques. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
La grande masse des hommes vit des vies de calme désespoir, résignation. Voilà le nom qu'on donne au désespoir lorsqu'il est confirmé. On passe de la ville désespérée à la campagne désespérée et l'on doit se consoler avec la bravoure des visons et des rats musqués. Un désespoir stéréotypé mais inconscient se cache jusqu'au cœur de ce qu'on appelle les jeux et amusements humains. Ils n'y ont rien de ludique car ils ont lieu après le travail, mais c'est une caractéristique de la sagesse que de ne rien faire de désespéré. Lorsque nous nous penchons sur la question de savoir ce qui, pour reprendre les mots du catéchisme, constitue la fin dernière de l'homme et ce que sont les vraies nécessités et les vraies ressources vitales, tout semble se passer comme si les hommes avaient délibérément choisi le mode de vie commun parce qu'ils le préféraient à tout autre mode de vie. Pourtant, ils croient sincèrement qu'ils n'ont plus aucun choix. Mais les natures saines et vigoureuses se souviennent que le soleil se lève neuf chaque matin. Il n'est jamais trop tard pour nous défaire de nos préjugés. On ne peut se fier aveuglément à aucun mode de pensée ni aucun mode d'agir, aussi antique soit-il. Ce que tout le monde répète à l'envi ou fait seulement passer silencieusement comme étant vrai, ce jour pourrait, demain, se révéler faux. Rien de plus qu'une fumée d'opinion que d'aucuns avaient erronément prise pour un nuage porteur d'une pluie fertilisante pour leur culture. Essayez donc de faire les choses que les anciens affirment que vous ne pouvez faire. Vous verrez que vous le pouvez. Alors, bienvenue à Toute Simplicité. C'est une chanson d'espoir. On peut dire « Je rêve à demain ». Puis, c'est un peu, on va parler un peu de ça aujourd'hui, espoir et désespoir. D'ailleurs, le texte de Thoreau que je vous ai lu dit que les hommes vivent en général une vie de résignation. La grande masse des hommes vit des vies de calme, désespoir, résignation. Voilà le nom qu'on donne au désespoir lorsqu'il est confirmé. Je vais vous en parler tout à l'heure. Dans le devoir d'aujourd'hui, il y a un texte de José Blanchet qui porte là-dessus. Danser sur un volcan, du nihilisme au contemplatif au swing. Du nihilisme contemplatif au swing à Val-David. Avant de parler de désespoir et d'espoir, j'ai quelques autres articles que j'ai retenus. J'ai aussi une annonce pour ceux qui s'intéressent ce soir à la librairie La Liberté. Il y a un café philo, café philosophique à 19h. Alors, seulement qu'à téléphoner à la librairie pour donner votre nom pour vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, dans le devoir, ah oui, puis aussi plus tard dans l'émission, je vais vous parler de Pierre Hadot. On en parle souvent de Pierre Hadot, puis je pensais que c'était une bonne idée que je donne un peu plus de détails sur ce philosophe qui est décédé il y a une dizaine d'années environ, Pierre Hadot, H-A-D-O-T, qui est un peu le philosophe inspirateur de l'émission en toute simplicité. Fait que plus tard dans l'émission, on va parler de Pierre Hadot. Bon, alors dans le devoir de lundi, on a un texte sur la forêt, la Gaspésie. En Gaspésie, le climat se réchauffe depuis maintenant près d'un siècle. Des scientifiques ont analysé les cernes des vieux arbres des montagnes de la région. Alors c'est ça, c'est qu'on a trouvé des forêts qui étaient encore des forêts anciennes, on peut dire. L'analyse des cernes des arbres d'une forêt pluricentenaire dans le parc national de la Gaspésie a permis de retracer le climat passé de la région et elle indique qu'il a commencé à se réchauffer dans le parc il y a près de 90 ans. Alors c'est à peu près ça, on parle de l'utilisation des hydrocarbures, là, c'est environ ça là, qu'on a commencé à beaucoup émettre de CO2. Donc, il y a une corrélation. Pour étudier le climat d'antan de cette région, des chercheurs de l'Université Concordia ne disposaient au départ que de données météorologiques et hydrologiques récentes. Pour remonter plus loin dans le temps, ils se sont alors tournés vers une forêt très ancienne composée de cèdres âgés de 300 ans et plus. Cette forêt était épargnée des coupes à blanc qui avait cours dans le parc jusqu'aux années 1980, probablement parce qu'elle est située entre le mont Albert et la rivière Sainte-Anne, un lieu géographique dont l'accès est difficile. Cette situation stratégique a aussi vraisemblablement contribué à la protéger du feu. Cette très vieille forêt est un véritable joyau, car dans le sud du Québec, presque toutes les forêts ont été coupées au moins une fois. C'est donc très rare de trouver des arbres qui ont plus de 100 ans, souligne Alexandre Pace, qui termine son doctorat au département de géographie, urbanisme et environnement à l'Université Concordia. C'est ça, alors, on en a parlé déjà à l'émission, les forêts anciennes, on n'en a plus, c'est seulement des forêts jeunes qu'on a au Québec, fait qu'on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait, surtout dans le sud aussi, nos anciennes forêts, on a quelques vestiges. Là. Je sais que pour ceux qui s'intéressent, le Mont Wright, là, près de Stoneham, semblerait que c'est un vestige de forêt ancienne. Ça vous donnerait une idée si vous allez faire une randonnée au Mont Wright pour voir à quoi pourraient ressembler les anciennes forêts. Alors, on dit dans l'article, en l'absence de données historiques sur l'abondance des chutes de neige, des chercheurs ont eu recours aux données hydrologiques de la rivière Sainte-Anne, qui sont colligés depuis 1969. Ces données leur ont permis d'inférer que les années où le débit printanier de la rivière était très élevé étaient de toute évidence des années où les chutes de neige avaient été abondantes. Les chercheurs ont ensuite pu établir une corrélation entre la largeur des cernes dans les arbres et le débit de la rivière au printemps. En fait, ils ont remarqué que les années où le débit prétanier de la rivière était élevé, ce qui signifiait qu'il y avait eu une importante accumulation de neige durant l'hiver, les cernes étaient très minces. Ils étaient minces parce que la période durant laquelle les arbres pouvaient croître avait été courte en raison de l'épaisseur du couvert neigeux qui avait mis plus de temps à fondre, retardant ainsi le dégel du sol. L'étude des anneaux de croissance des arbres pluricentenaires a ensuite permis d'ajouter 147 ans à cet historique de données sur le débit de la rivière. Alors, pour ceux qui s'intéressent, là, je ne lirai pas au complet, c'est dans le Devoir de lundi dernier, le 6 octobre, page A8, en Gaspésie, le climat se réchauffe depuis maintenant plus d'un siècle. Un autre texte sur la forêt, dans la même veine d'idées, qui était dans le Devoir de samedi, page A3. Repenser la forêt pour l'aider à résister au feu. Changer des façons de faire dans l'industrie forestière pourrait rendre la forêt plus résiliente aux incendies qui ont brûlé 4 millions d'hectares en 2023, un record. À l'été 2023, un soleil de sang est apparu dans le ciel voilé de particules de fumée des feux de forêt au Québec. Selon la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, les incendies ont brûlé 4 millions d'hectares de forêts québécoises, un record en 20 ans dans la province. Une étude du World Weather Attribution a constaté que les changements climatiques ont plus que doublé la probabilité d'avoir des conditions météorologiques extrêmes liées aux incendies au Québec cette année-là. Le temps sec et chaud et les vents augmentent les probabilités de feux de forêt, souvent déclenchés par la foudre. Beaucoup se demandent s'il y a un moyen de protéger la forêt pour éviter que ça se reproduise. Si l'on veut agir après un feu, la première question à se poser est si on doit récolter les arbres restés debout. C'est paradoxal parce que le bois qu'on va chercher là, ce sont des volumes qu'on n'aura pas besoin d'aller couper en forêt, pas brûler. Mais en même temps, ces arbres-là sont très importants pour les insectes et les oiseaux qui en sont dépendants, souligne Alain Paquette, professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine. L'industrie souhaite amortir le plus possible ses pertes, mais la récolte doit se faire en moins d'un an avant que le bois ne se dégrade, se faisant des arbres mûrs ayant encore une capacité de régénérer le terrain pour être subtilisé trop vite. Dans le futur, par contre, si le feu est très intense et brûle une partie de la matière organique et du support biologique en profondeur, la régénération sera plus difficile, explique Alain Paquette, et le rajeunissement de la forêt causé par les coupes des industries la rend vulnérable, les comptes prenant plusieurs années à se développer. Selon Ressources naturelles Canada, vers 2100, la saison de croissance pourrait durer de 20 à 40 jours de plus, ce qui augmentera la production d'arbres. Des gains en production, toutefois, freinés par les perturbations comme le feu. M. Paquette croit que même si les perturbations liées au changement climatique sont bien connues, il y a tout de même beaucoup de résistance à modifier les façons de faire. Quand on change les choses dans notre façon d'exploiter la forêt, ça a des effets à très long terme, mais on n'a pas le choix de réfléchir à de nouvelles façons de faire à cause des changements climatiques et le constat que ce qu'on fait depuis 200 ans apporte de gros problèmes. Localement, dans chaque hectare, on n'a pas perdu de diversité, mais si on regarde à l'échelle du paysage, on perd beaucoup. La forêt est plus vulnérable que jamais, conclut M. Paquette. Dans un autre ordre d'idée, il y avait une conférence de M. Joshua Benjo sur l'intelligence artificielle cette semaine, et il y a un texte dans le Devoir de mardi qui rapporte, en fait c'était lundi, il y a un texte dans le Devoir de mardi sur ce qu'on a dit à cette rencontre-là, deux experts en intelligence artificielle. le titre de l'article, c'est « Les promesses et les dangers de l'IA selon Acemoglu et Benjo ». Les deux experts plaident pour un sentiment d'urgence collective comparable à celui causé par l'arme nucléaire. L'intelligence artificielle vient avec des promesses, mais aussi avec de graves dangers, préviennent les deux sommités mondiales, Daron Acemoglu et Yoshua Benjo, qui s'inquiètent qu'on ait autant de mal en prendre conscience. Collectivement, nous sous-estimons le potentiel transformatif de l'intelligence artificielle, tant du point de vue positif que négatif. Et cela se reflète dans le comportement des gouvernements, a déclaré lundi l'expert québécois de l'IA, Yoshia Benjo, lors d'un point de presse en marge d'un événement où il partageait la scène avec le professeur du Massachusetts of Institute of Technology, MIT, et prix Nobel d'économie, Daron Acemoglu, au complexe des sciences de l'UQAM. Dans les sondages, plus des deux tiers des Nord-Américains se disent préoccupés par l'intelligence artificielle, mais cela vient seulement au 15e rang de leurs soucis, loin derrière d'autres questions comme l'emploi, l'inflation ou la santé, a poursuivi Yoshia Benjo. Je crois que nos gouvernements commettent une énorme erreur en faisant semblant de trouver l'IA importante sans vraiment s'en occuper sérieusement. On parle d'impact économique. En matière économique, on entend souvent parler de ces jeunes diplômés universitaires sans emploi parce que l'IA peut maintenant accomplir des tâches qui leur revenaient autrefois. Mais malgré ces progrès rapides, la nouvelle venue est encore loin d'avoir la capacité des humains en matière d'habileté interpersonnelle ou de pensée cohérente et raisonnée, a expliqué Yoshia Benjo. Si certains emplois, comme ceux des centres d'appel, peuvent être menacés, d'autres, par exemple, dans le secteur des soins de santé ou celui de l'informatique, devraient pouvoir profiter du coup de pouce offert par l'IA. Encore faudrait-il que cette technologie soit développée en ayant en tête l'amélioration de la productivité des travailleurs et non pas leur simple remplacement, a précisé Daron Acemoglu, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'économiste turco-américain met en garde contre le danger de la très grande concentration du secteur, notamment entre les mains de quelques géants du numérique qui exercent un contrôle de plus en plus grand sur les données et sur l'information. Un contrôle aussi essentiellement partagé entre seulement deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine, qui menacent de complètement marginaliser les entreprises de pays comme le Canada. Une telle situation serait catastrophique, a prévenu Yoshia Benjo. Les efforts annoncés par le Canada, l'Allemagne et d'autres puissances moyennes pour renverser la vapeur ne seront jamais suffisants, selon lui, à moins qu'elles s'unissent. Il n'est toutefois pas trop tard, ont souligné les deux conférenciers. Malgré son ampleur et sa rapidité, la révolution de l'intelligence artificielle ne devrait pas vraiment avoir la capacité d'avoir des répercussions profondes sur nos sociétés avant une dizaine d'années. Ça nous donne 10 ans pour se préparer, en tout cas, ou faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, il dit, de selon une dizaine d'années, peut-être le double a estimé Daron Acemoglu. C'est le temps d'avoir ces discussions et ces débats. Nous entrons dans une période de l'histoire humaine où les décisions que nous allons prendre en matière de technologie et de politique auront un impact crucial sur notre bien-être, nos démocraties, la stabilité géopolitique de notre futur, a ajouté son confrère. C'était dans le Devoir de mardi 7 octobre, page B7. Dans le Devoir de jeudi, le végétarisme en perte de vitesse. On dit entre l'automne 2024 et le printemps 2025, la proportion de Canadiens se disant végétariens est passée de 7,7% à 5,9%. Celle des végétaliens est passée de 2,6% à 3%, selon une étude du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, citée dans la revue Retail Insider. Cet affaiblissement du mouvement végétarien se fait par ailleurs de plus en plus ressentir dans l'industrie. Les géants américains Beyond Meat et Impossible Food, dont les hamburgers à base de plantes sont en épicerie dans plusieurs chaînes de restaurants, ont vu leurs ventes diminuer ces deux dernières années. L'action de Beyond Meat, qui valait environ 235 $ à son pic en 2019, valait à peine 2 $ en début d'octobre. En septembre, Eve Veggie Cuisine, pionnière des substituts de viande au Canada, a annoncé sa fermeture après 40 ans, évoquant un déclin depuis plusieurs années des produits sans viande. Ce qu'on dit, par contre, c'est que ces produits-là On dit confirmant voir beaucoup d'éco-fatigue chez les végétariens. L'autrice et militante végane Élise Desaunier croit que le mouvement a aussi souffert de cette nouvelle obsession pour une alimentation riche en protéines portée par nombre d'influenceurs. Car on parle de protéines. Quand on parle de protéines, on pense immédiatement à la viande, aux poissons ou aux œufs. Une diète qui inquiète d'ailleurs des nutritionnistes qui soulignent que les Canadiens mangent déjà assez de protéines. Mais c'est surtout la méfiance envers les aliments ultra-transformés qui a freiné l'élan végétarien, ajoute Mme Desaunier. L'industrie de la viande a poussé l'idée que les aliments végétaliens, comme les fausses viandes, étaient artificiels, trop transformés et donc mauvais pour la santé. Ça a créé des inquiétudes. C'est l'envers de la médaille. Souvent, ces produits-là, c'est des aliments transformés, donc ils sont peut-être végétariens, mais peut-être pas aussi bons qu'on pense. Donc, il y a une réflexion à avoir. Et pour ceux qui s'intéressent, la semaine prochaine, l'émission va porter sur le véganisme. On va avoir Stéphane Groslot comme invité. On va parler d'alimentation et de la cause animale. Puis justement, prochain texte, c'est sur la cause animale. C'est dans le Devoir de jeudi, hier, 9 octobre. C'est un texte de Robin Michaud, qui est président-directeur scientifique du groupe de recherche et éducation sur les mammifères marins et coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. C'est notre expert québécois là, qu'on voit souvent dans les reportages à la télévision, en lien avec les bélugas notamment. Puis là, il écrit un texte d'opinion. Que dirait Jane Goodall du sort que l'on réserve aux bélugas de Marineland? Marineland semblerait en faillite, puis ils possèdent plusieurs bélugas dans leurs installations. C'est à Toronto, je pense. Et là, ils ne savent pas trop quoi faire avec. On parle des euthanasiés. Monsieur Michaud, ben, il est scandalisé par ça. Alors, il écrit une lettre d'opinion dans le Devoir. Monsieur le premier ministre Ford, Madame la ministre Thompson, j'aimerais, si cela était possible, vous convier à un entretien avec Jane Goodall. Je ne le peux pas, malheureusement, et c'est donc avec mes mots que j'exprimerai ce que j'aimerais que vous entendiez. Madame Thompson, laissez-moi d'entrée de jeu vous saluer. Saluer votre décision et votre courage, c'est qu'il y a au moins un bon point là-dedans, c'est qu'on a refusé de les envoyer en Chine. Il semblerait qu'il y ait un problème là-bas, là, au niveau de l'éthique animale. Alors, je salue votre courage en refusant Marineland la permission d'exporter les 30 bélugas qui restent en vie dans leur installation de Niagara Falls en Ontario vers un aquarium en Chine. Vous honorez l'esprit de la loi adoptée par votre gouvernement en 2019. En effet, cette loi visait à accélérer notre retrait d'une tradition héritée d'un autre siècle. Jusqu'à récemment, nous trouvions acceptable de capturer des cétacés en nature pour les garder en aquarium. Pour notre mémoire, il n'y a pas si longtemps, des humains faisaient la même chose avec d'autres humains. Enfin, les temps changent, mais change-t-il vraiment? Entendre la menace des actuels propriétaires, on pourrait en douter. Les propriétaires de Marineland, en interdisant la reproduction des cétacés en captivité, la loi de 2019 visait donc à réduire progressivement et de façon responsable le nombre de ces animaux gardés en aquarium. Ce retrait doit forcément être lent et progressif. Les bélugas en nature peuvent vivre presque aussi longtemps que nous. Nés ou élevés en aquarium, ils ne pourront jamais être retournés à la mer. La situation des bélugas à Maryland n'est pas devenue soudainement insoutenable. Il y a quelques années seulement, après avoir laissé les bélugas librement se reproduire dans leur habitat artificiel, Maryland a vu son troupeau de bélugas dépasser le nombre de 50. Depuis 2019, près d'une vingtaine de ces bélugas sont morts dans leur aquarium. Combien mourront encore dans les mois à venir? Mais là, ben, c'est ça. M. Michaud veut que le gouvernement intervienne pour préserver ces animaux-là, les envoyer dans des... Il semblerait qu'il y aurait des réserves au Canada qui se prépareraient pour accueillir des cétacés. On dit au Canada, en Nouvelle-Écosse, un sanctuaire en eau libre tente de voir le jour. Les promoteurs proposent, entre autres, d'y accueillir des bélugas. Nous partageons avec les bélugas et les chimpanzés l'empathie et l'empathie et des règles morales sur lesquelles nous avons construit notre société. Dans un élan de solidarité, nous sommes capables de faire de belles et bonnes choses. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce. Madame Thompson, Monsieur Ford, vous pouvez nous faire rêver, nous montrer que nous vivons dans une société juste et bienveillante pour nous et les autres et tous les autres. Voilà, c'est sur la cause animale, comme je vous disais. La semaine prochaine, on va aborder ça avec Stéphane Groslot. Finalement, deux textes sur espoir et désespoir. C'est dans le Devoir d'aujourd'hui, le texte de Mme Josée Blanchet. Elle dit « Au marathon du désespoir, je suis désormais capable d'accomplir les cinq étapes du deuil dans la même heure. Aller-retour, déni, marchandage, colère, dépression, acceptation, amnésant. Je suis capable, avec un peu de push-push, l'odeur du Moyen-Âge. Il faut être solidement déconnecté et fréquenter le comptoir d'ordonnance du Jean Coutu pour aller bien dans les temps qui courent. Ou être très vieux et se sentir que sa fin approche. » En tout cas, c'est un texte assez, pessimiste, là. Puis il rappelle que les philosophes... se méfiait de l'idée d'espoir. Alors, elle revient là-dessus. C'est un texte un peu désespéré, je trouve, dans ça. C'est dans le Devoir d'aujourd'hui. Et elle fait référence à un autre texte du Devoir qui était dans le lundi dernier. On parle du dernier livre de Mathieu Bellil, Une brève histoire de l'espoir. Le titre de l'article, c'est Des raisons d'espérer. L'essayiste Mathieu Bellil, qui signe Une brève histoire de l'espoir, nous rappelle que le pire n'est pas certain. Face à tous les incendies et toutes les calamités que l'on nous promet, l'essayiste, chroniqueur et professeur de littérature au Collège Jean de Brébeuf, né en 1976 à Drummondville, tient à nous dire que le pire n'est pas certain. Pas encore, même si nous avons tendance à ne penser que les choses pourraient aller mieux. J'ai l'impression, dans notre propre constitution, nous sommes programmés pour réagir davantage aux dangers. Parce que, c'est bien connu, les raisons de s'inquiéter, les histoires de déclin et de crépuscule, les drames et les catastrophes attirent davantage l'attention des médias. Le risque de tous ces discours alarmistes qui cherchent souvent à secouer l'opinion, quoi Mathieu Bellil, est qu'ils peuvent avoir l'effet exactement inverse de celui qui est recherché, nourrir le découragement et la résignation et le repli individualiste. À ce moment-là, retirons-nous dans chacun dans nos terres, travaillons notre petit bonheur, nourrissons notre petit espoir personnel, achetons-nous une île si on est millionnaire ou milliardaire ou un bunker au Montana et cessons de nous préoccuper du sort du monde parce que, de toute manière, c'est réglé, c'est fini. Les réseaux sociaux et les informations en continu sont essentiellement devenus des accélérateurs de mauvaises nouvelles, nous poussant de catastrophe en catastrophe. Une réalité qui vient nourrir en nous un découragement continu dans laquelle nous mesurons sans cesse notre impuissance. Au fond, ce qui m'a fasciné avec l'espoir, c'est que je trouvais là une vertu qui réunit, qui rassemble et qui relie. L'espoir authentique se vit dans le lien avec l'autre, avec la vie. L'espoir, c'est aussi ce qui réunit le passé, le présent et l'avenir. C'est le filtré qui nous manque. C'est le filtre qui nous manque, en quelque sorte, aujourd'hui. Mais qui fait que nous sommes souvent enfermés dans un présent qui tourne sur lui-même. Mathieu Bellil ne le cache pas. Pour nombre de philosophes, l'espoir est une calamité. Les grands penseurs de l'Antiquité condamnaient l'espoir. Épicure y voyait une passion inutile. Épictète en avait même fait sa devise, ni espoir, ni crainte. Plus tard, Nietzsche voyait quant à lui, dans l'espoir, une valeur typique de la morale de l'esclave, une façon de nourrir l'illusion que le malheur serait une situation temporaire entre les deux. Pendant des siècles, Mathieu Bellil souligne que le christianisme a fait de l'espoir la condition même de l'aventure humaine. Il dit un peu plus loin, « Quand on se met à penser qu'il n'est pas trop tard, que la fin n'est pas imminente, à mon sens, c'est l'étape nécessaire pour recommencer à penser à long terme, pour recommencer à vivre, non plus dans une sorte de présent qui tourne sur lui-même, mais en pensant à la suite. » J'ai l'impression qu'il faut d'abord briser le pouvoir de la dystopie sur nous pour que revienne la possibilité de l'utopie, une utopie réaliste qui ne serait pas l'incarnation du paradis sur Terre, quelque chose qui nous apprendrait à être attentifs à la vie, en nous et autour de nous dès maintenant, à la nature, aux gens, à la beauté du monde, à l'infiniment proche, tout ce qui nous relie au monde et qui fait que l'on veut au quotidien rendre ce monde habitable, même s'il nous faudra peut-être passer par une grande catastrophe, ajoute Mathieu Bellil, pour que cela advienne. Évoquant les révolutionnaires du 19e siècle, soulés à l'avenir au progrès technique autant qu'humain, l'espoir, c'est la foi de ce siècle. Mathieu Bellil s'étonne. Que voyaient tous ces gens que nous ne voyons plus? Du rêve, nous sommes, dirait-on, passé au cauchemar. L'euphorie de ces visionnaires a fait aujourd'hui place à une sorte de cécité inquiète. Il y a quelque chose dans ce siècle-là qu'il faut aller retrouver. Il faut retrouver une sorte de foi, de confiance, et comprendre aussi que l'espoir n'a de valeur que s'il nous mène à une forme d'action. Alors, c'est Mathieu Bellil, il vient de publier, c'est un peu condensé, c'est un article en fait sur son livre, là, une brève histoire de l'espoir par Mathieu Bellil aux éditions Luxe. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être regardé parce qu'on en a besoin d'espoir ces temps-ci. Alors, on prend une petite pause musicale. Pour retour, je vous parle de philosophie comme mode de vie et de Pierre Hadot. Comme je vous disais, je vais vous parler un peu de la philosophie comme mode de vie. Et évidemment, celui qui a un peu fait naître ce concept-là, c'est Pierre Hadot. Alors, je vais vous parler de Pierre Hadot. Je vais vous parler aussi de Daniel Desroches, philosophe de Québec, qui écrit un livre, La philosophie comme mode de vie. Puis son livre est entièrement basé sur le travail de Pierre Hadot. Donc, et comme je vous disais à l'émission en toute simplicité, qui était une émission qui se porte sur la philosophie, la simplicité volontaire et l'écologie, La philosophie comme mode de vie, qui était la philosophie dans l'Antiquité, comment la philosophie était perçue, bien, c'est un peu ce qui guide un peu notre émission. Alors, je pensais que c'est une bonne idée qu'on revienne là-dessus. Je vais commencer par un petit texte de Jacques Sénécal, notre ami Jacques Sénécal, que la santé n'est pas trop bonne ces temps-ci. Espérons qu'il va pouvoir revenir à notre émission. C'était notre invité régulier en toute simplicité. Alors, voilà, il avait écrit un texte. La philosophie peut-elle être un mode de vie? La philosophie, signifiant littéralement « amour de la sagesse », est une démarche qui vise à une compréhension du mode du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique, donc une réflexion théorique, non scientifique, dont l'outil privilégié est la raison et qui a pour objectif le bonheur ou plus précisément la sagesse. Mais la philosophie est aussi un mode de vie, une démarche pour retrouver une cohérence entre soi et soi-même, entre soi et les autres, entre soi et le bien commun, l'humanité, et enfin, entre soi et la nature à laquelle nous appartenons. Ce mode de vie suppose un comportement conforme aux exigences d'un idéal de sagesse. Il peut contenir des disciplines spirituelles comme la méditation et l'examen de conscience. C'est un chemin de vie, une pratique de tous les jours. Penser sa vie et vivre sa pensée. Ici, je m'arrête un peu, c'est ce que Jacques Sénécal décrit là, c'est ce que Pierre Hadot appelle les exercices spirituels. Ça, c'est très important dans l'œuvre de Pierre Hadot, l'idée des exercices spirituels. Et ce qu'il disait, dans le fond, dans l'Antiquité, toute la philosophie, c'était essentiellement des exercices spirituels, des façons de se développer soi-même. Alors, c'est ce qu'il dit quand il dit une démarche pour retrouver une cohérence entre soi et soi-même, soi et les autres, soi et le bien commun. Ce mode de vie suppose un comportement conforme aux exigences d'un idéal de sagesse. La philosophie antique, notamment chez les cyniques, les stoïciens et les épicuriens, tous influencés par Socrate, n'a pas pour but de tout expliquer ni de tout analyser, mais de mener à une transformation de soi par des conduites particulières. C'est un choix de vie. La vie est plus importante que n'importe quel discours et n'importe quelle argumentation. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Il y a aujourd'hui beaucoup de professeurs de philosophie, mais peu de philosophes, répondrait Henri-David Thoreau. Thoreau, qui est aussi notre guide, que je vous lis à toutes les émissions, je vous lis un extrait de Thoreau en début d'émission, puis je vous passe aussi une pièce musicale de l'album de Richard Séguin là, sur les pas de Thoreau, « Retour à Walden ». Quelle est alors la figure du sage dont le mode de vie sera à suivre? Une personne qui s'adonne à la quiétude, qui se libère des égoïsmes pour accéder à plus d'autonomie et d'universalité, qui, avec impassibilité, prend conscience d'appartenir à un tout, à la nature prise dans son ensemble. Une personne qui a donc l'esprit holistique et qui, tout en focalisant sur le présent, se détache de la frénésie du monde, de la consommation, des dépendances matérielles et des mensonges pour avoir en tout temps une vision juste de soi et du réel. Pour arriver à cette pratique volontaire, personnelle, destinée à une transformation de soi, cela suppose, selon les sages du monde entier, une pleine conscience de la raison, un éveil de la conscience de soi, un contrôle de la pensée par la méditation, le recueillement et la concentration. À noter que le mot « yoga » signifie « joug », contrainte, discipline. On n'a rien sans effort. Certains maîtres suggèrent l'assistance d'un guide spirituel ou d'un groupe d'initiés. D'autres, au contraire, proposent que l'on devienne seul son propre maître. Mais dans tous les cas, la connaissance des sages et de la sagesse par la lecture est recommandée. La figure du sage, pour nous, occidentaux, est très certainement le grand Socrate, inclassable, déroutant, extravagant, atypique, philosophe n'ayant pas de philosophie, il coordonne sa vie sur trois maximes qui ne sont pas théoriques, mais pratiques. Un mode de vie. Premièrement, il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Ensuite, nul ne le fait par choix conscient ou volontairement, puisque ceux qui désirent et font le mal le font parce qu'ils ignorent ce qu'il est. Choisissons les actions, toujours les actions que nous croyons les plus utiles. C'est donc le mal vient nécessairement d'une forme d'ignorance. Alors ça, c'était Jacques Sénécal, un petit texte qu'il avait écrit là, sur la philosophie peut-elle être un mode de vie. Là, je vais passer avec un autre texte de Daniel Desroches, le titre de son livre, c'est la philosophie comme mode de vie. Et au tout début, ben, il nous présente Pierre Hadot. Alors, je vais vous en lire un petit peu, parce que, comme je vous disais, j'en parle souvent, puis probablement que vous ne savez pas c'est qui. Alors, Pierre Hadot, c'est H-A-D-O-T, l'helléniste, c'est un spécialiste de la Grèce, Pierre Hadot, l'helléniste français. Pierre Hadot est né en 1922. Le jeune Pierre reçoit un enseignement religieux, entre au séminaire à Reims en 1937. À l'époque, alors qu'il est adolescent, il éprouve le sentiment de la présence du monde, ce qu'il appelle, après Romain Rolland, le sentiment océanique. Il obtient le baccalauréat, puis des certificats en philosophie. Ordonné prêtre en 1944, Hadot enseigne la philosophie et prépare une thèse de doctorat sur l'œuvre de Marius Victorinus, un rhéteur romain du 3e siècle, qui traduisit Plotin. Il obtient un poste de chercheur en 1900 au CNRS en 1949, puis après avoir adopté une attitude plus critique à l'égard de l'Église, il renonce à la vie religieuse en 1952. À partir de l'année 1953, après un premier mariage, il poursuit sa carrière d'helléniste. Outre Victorinus, il travaille aussi Plotin. Le choix du néo-platonisme n'est pas indifférent, car Hadot s'est intéressé à la mystique. En effet, il fut le premier à écrire sur Wittgenstein en France. Ses articles, qui remontent à 1959, seront plus tard réunis et publiés. Son livre sur Plotin, écrit en trois mois seulement, paraît en 1963. L'année suivante, Pierre Hadot devient directeur d'études à l'École pratique des hautes études, puis, lors d'un séjour en Suisse, il retrouve alors Iseltraut Martin, qui deviendra sa seconde épouse. Après sa thèse d'État, achevée en 1968, Hadot entreprend une recherche originale sur le phénomène spirituel que constitue la philosophie. Il publie un article de synthèse qu'il intitule « Exercice spirituel » en 1977. C'est en 1977 que là, il commence à énoncer son idée. Alors, il dit... La redécouverte de la philosophie comme manière de vivre n'est pourtant qu'un aspect de la longue recherche de Pierre Hadot. Comment a-t-il pris conscience du fait que la philosophie antique n'était pas une théorie, mais plutôt une manière de vivre? Comment Hadot lisait-il les textes anciens pour en comprendre le contexte de formation? Dans ses entretiens, Hadot a exposé le problème strictement littéraire qu'il a rencontré. En effet, l'helléniste s'est interrogé sur les incohérences apparentes présentes dans les textes anciens. Alors, c'est un spécialiste de la langue grecque. Alors, il a analysé les textes. C'est là qu'il a compris que la philosophie dans l'Antiquité, c'est pas la même chose que la philosophie aujourd'hui. L'expression « philosophie comme mode de vie » paraît très, très récente. En français, il n'est pas certain qu'on la retrouve avant son emploi comme sous-titre de la seconde partie du livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» qui est un peu le classique de Pierre Hadot, publié par Pierre Hadot en 1995. En anglais, la formule « Philosophy as a way of life » est utilisée la même année comme titre de la traduction partielle du recueil intitulé « Exercice spirituel et philosophie antique ». Or, l'idée maîtresse de léniniste ado, selon laquelle la philosophie antique consistait dans le choix d'un mode de vie, s'atteste à partir de la leçon inaugurale prononcée au Collège de France en février 1983. Alors, c'est assez récent tout ça, là. C'est ça, en 95, la philosophie, son titre, c'est « Qu'est-ce que la philosophie antique? » Et puis c'est ça qui fait connaître la philosophie comme mode de vie. Cependant, la redécouverte du phénomène général de la philosophie comme manière de vivre, selon le titre aux entretiens publiés en 2001, est pourtant antérieure à cette période. Si on laisse en plan l'intérêt de jeunesse pour la mystique, l'étude de la philosophie comme discipline spirituelle remonterait à un article portant sur l'exercice de la physique chez Marc Aurèle en 1972, un article qui fut intégré en 1981 au recueil « Exercice spirituel et philosophie antique ». Ajoutons enfin que durant l'intervalle, peut-être motivé par la discussion de la thèse de Iseltrote, Martin portant sur Sénèque, ado rédigeait un article liminaire intitulé « Exercice spirituel » qui paraissait dans la cinquième section de l'annuaire de l'École pratique des hautes études. Alors, on va prendre une petite pause musicale. Là, je vous ai lu un extrait du livre de Daniel Desroches, La philosophie comme mode de vie. Et au retour, je vais vous lire un extrait d'un livre qui porte sur Pierre Hadot. C'est un livre de Pierre Hadot. Discours et mode de vie philosophique, Pierre Hadot. Alors, on prend une pause musicale, puis je vous reviens avec ça au retour. peu de musique orientale. C'était Songs from Afghanistan, The Afghan Ensemble. Et c'est le titre, là, c'est Aye Bhoti Bahram. C'est de la musique afghane. Alors, c'est ça. J'ai le livre de Pierre Adot qui s'intitule « Discours et mode de vie philosophique » et je vais vous lire des extraits de la préface qui était écrite par un autre philosophe qui s'est intéressé. Il a écrit des livres, d'ailleurs, sur la philosophie comme mode de vie, qui s'appelle Xavier Pavie. Alors, il dit « Pierre Adot a réussi ce que peu de penseurs réussissent à faire, articuler, rigueur, érudition et clarté pour une large audience. Cela est d'autant plus vrai dans la dernière période de sa vie où il a développé la notion d'exercice spirituel dans un certain nombre d'ouvrages très accessibles. D'autres textes, d'autres articles non moins précieux pour cette notion comme pour comprendre l'œuvre de Pierre Adot d'une façon générale sont restés jusqu'alors confidentiels. L'enjeu de cet ouvrage est donc de porter à la connaissance du plus grand nombre ses écrits permettant ainsi de prolonger la saisie de ce que sont les exercices spirituels, entrer plus en profondeur ou encore plus simplement de découvrir son œuvre. C'est pour veiller à réunir ces trois objectifs que nous proposons cette préface autour de l'apport majeur de Pierre Adot, la découverte des exercices spirituels dans la philosophie antique. Plus particulièrement, afin que ceux-ci comprennent dans une articulation mêlant à la fois la théorie et la mise en œuvre, car c'est bien l'enjeu des exercices spirituels que de joindre à la fois le discours et la pratique. Alors, un peu plus loin, il dit l'exercice spirituel, l'essence de la philosophie antique. Avant tout, rappelons que l'exercice spirituel est consécutif à la naissance de la philosophie. En effet, celle-ci a eu pour enjeu d'interroger le monde et de le comprendre, mais dans l'objectif ultime de savoir comment y vivre, compte tenu de ce que la vie peut apporter comme maux, souffrances, difficultés, vicissitudes. C'est pour cela qu'émerge dans l'Antiquité ce que Pierre Adot a appelé des exercices spirituels, expression qui désigne toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, de voir les choses. C'est à la fois un discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, et une mise en œuvre. Pour Pierre Adot, toute la philosophie antique est une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de l'existence au lieu d'être soumis à ses passions, finalement jamais assouvies. La phrase, d'ailleurs, que Pierre Adot n'hésite pas à décrire comme élément déclencheur de sa réflexion est celle de Bergson. Celle-ci lui fut proposée à son épreuve de baccalauréat de philosophie en 1939. La philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. Alors, c'était une petite introduction à Pierre Adot. Et l'émission est terminée. Puis je vous invite, pour ceux que ça intéresse, ce soir, les librairies La Liberté, il y a un café philo. Et la semaine prochaine, avec Stéphane Groslot, on va parler de véganisme et de cause animale. Alors, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouf. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 10 octobre 2025. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, qualifie de violation directe du droit à la négociation collective des employés l'annonce de la fermeture de la succursale.